qui peut être son fils. Et on les entend se disputer très tard dans la nuit. En haut de la rue, trois tours plantées dans le bitume se découpent dans le ciel. Parfois, dans les lueurs mauves du crépuscule émane d'elles quelque chose qui ressemble à de la beauté. Mais personne ne pouvait désirer vivre ici. Et personne, comprend-elle un jour, personne, à commencer par ses parents, ne l'a réellement choisi, ni ici, ni ailleurs. Elle espère avoir d'autres choix. Sur le chemin de l'école, puis du collège, et du lycée. Elle passe près d'une caserne de gendarmerie mobile avec ses longs murs de meulière. Elle s'en souviendra des années plus tard dans cet endroit qui ne lui rappelle pourtant rien de son enfance. Un été, près de la mer, en poussant la porte d'une autre gendarmerie où l'attend l'adjudante-chef Séverine Bogossian, pour entendre son témoignage sur les événements qui ont précédé l'agression d'Alban Genevet. « Je sais combien vous devez être bouleversée, mademoiselle Sorouche, mais nous avons besoin de vous entendre, vous et les autres témoins, pour établir une chronologie, comprendre les circonstances, ce genre de choses. Je vous promets de faire aussi vite que possible. » « Je comprends, madame. Je vous remercie. Je suis prête. » Durant toute sa scolarité, Chérine est une très bonne élève. Si bonne même que ses parents la considèrent parfois avec une sorte de respect craintif, et ses sœurs avec une admiration teintée de jalousie et de fierté. Après son bac, encouragée par ses professeurs, elle présente sa candidature en classe préparatoire littéraire. Elle est admise dans un lycée prestigieux, et traverse désormais quotidiennement le boulevard périphérique. Le trajet depuis chez elle dure une quarantaine de minutes et pourtant, pendant toutes ses années d'études secondaires, elle a dû se rendre à Paris moins d'une dizaine de fois, comme si les trois tours, les pavillons, les longs murs de Molière, les troènes et le saule pleureur la retenaient prisonnière de leur champ magnétique. Mais c'est fini maintenant. Elle part chaque matin, légère et transite froid. Elle rentre épuisée et éblouie et se met à travailler dans la chambre qu'elle occupe toute seule depuis que ses sœurs sont parties. Quand elle a du mal à comprendre quelque chose, le très puissant djinn revient effleurer presque imperceptiblement ses paupières en cachette du seigneur des mondes qui, dans son amour infini pour toutes ses créatures, réprouve évidemment le favoritisme. Et elle comprend tout. Sa mère craignait qu'elle ne se sente pas à sa place, qu'elle ait du mal à s'adapter. Mais la question ne se pose même pas. Le lycée est pour elle une caverne magique pleine de trésors, disponible pour tous et pourtant impossible à voler, à partir de laquelle on peut, sans bouger, rejoindre n'importe quel point de l'espace et du temps dans la communauté fraternelle des vivants et des morts. 2 ans plus tard, elle réussit le concours de l'école normale supérieure. « Nous sommes si fiers de toi, » dit ses parents tout émus. « Bientôt pourtant, nous n'aurons presque plus rien de commun. » C'est une tâche bien difficile de devoir aider ses enfants, l'une après l'autre, à devenir des étrangères. Jamais, répond Chérine en se réfugiant dans leurs bras comme si elle avait encore 5 ans. Mais elle prend un studio à Paris, qui lui coûte la moitié de son salaire de fonctionnaire stagiaire, et bientôt elle réalise qu'elle ne leur a pas rendu visite depuis des semaines. Lors d'une soirée, un ami commun lui présente Alban. Mais elle ne présentera pas Alban à sa famille. Quelle est la nature de vos relations avec la victime? C'est mon petit copain, mon compagnon. Je ne sais pas quel terme convient, aucun, sans doute. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Il est en 3e année de médecine. Elle aime être avec lui précisément parce qu'ils ne partagent guère d'intérêts communs et qu'elle se sent comme l'exploratrice d'une contrée exotique et lointaine. Il vit dans un petit appartement du 5e arrondissement que ses parents ont acheté pour lui quand il a commencé ses études de médecine pour s'épargner la recherche toujours hasardeuse d'une location convenable, sans compter qu'il est toujours judicieux d'investir dans l'immobilier à Paris. Elle y dort, de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. Les parents d'Alban les invitent à venir passer un week-end chez eux. Chérine a peur de les rencontrer, mais elle sent bien qu'elle ne peut refuser sans blesser Alban. Le samedi matin, en traversant le périphérique en direction de l'ouest, elle s'étonne que des gens riches puissent décider en toute connaissance de cause de s'installer en banlieue. Bien sûr, en un sens, ce n'est pas la même banlieue que celle où elle a grandi. On n'y trouve ni tours ni barres d'immeubles, mais l'alignement des maisons de maître ressemble à celui des pavillons de son enfance que la magie des sorcières aux cheveux rouges